Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission À nous le futur, mon nom est Claude Saint-Georges. Aujourd'hui, je vous donne des nouvelles jusqu'à 11h15, la publicité, et ensuite je reçois une dame qui va nous parler du problème de Gaza, c'est Kaoli Kadri, et après ça, je vais finir par d'autres petites nouvelles, d'accord? Fait que je commence par le livre « Que peut littérature quand elle ne peut? » Mais elle ne m'a pas beaucoup inspiré, mais suffisamment pour vous dire que il y a un paragraphe qui m'intéressait. Là. Aujourd'hui, puisqu'il nous faut questionner la littérature dans le rapport au monde, donc à chaque être vivant, il serait indécent de parler d'autre chose que de l'irruption de l'extrême droite au pays de Montaigne ou du génocide à ciel ouvert perpétré à Gaza. Il serait tout aussi bien honteux de ne pas affirmer l'irréductible intégrité de l'Ukraine pour la santé de l'Europe et pour celle de cet autre monde que nous devons imaginer. C'est ça qui m'impressionnait, cet autre monde que nous devons imaginer. Et du monde que nous avons à faire, je les vois en blason. Alors, c'est bel et bien l'objectif de cette émission. Imaginer ensemble un autre monde et commencer à le co-créer. Et puis, j'ai des objectifs plus précis. Nous avons la capacité depuis 1980 de résoudre ces problèmes. C'est ce que je me réfère à Buckminster Fuller qui disait ça en 1980. Mais on n'a pas mis en place son plan de 10 ans pour arriver au succès de l'humanité, qu'il l'appelait, c'est-à-dire que tout le monde ait une belle qualité de vie écologiquement et pacifiquement. Alors, 40 ans plus tard, on attend la théorie du donut, etc., dont je vous parle. Donc, les buts de cette émission, c'est d'arriver à zéro GES en 2050. Je me réfère ici à « Quand la forêt brûle », « L'âge du feu », chronique d'une planète en flammes, et puis sortir de l'ère pétrocène et donc de l'ère pyrocène. De préférence en 2030, mais je pense que c'est 2050, le zéro GES. Zéro pauvreté en 2030, ça c'est Willis Harman dans Créativité transcendante. Je vais vous parler de ça dans 3-4 semaines, quand je vais vous parler de la paix. Et puis désarmer l'humanité, c'est pour 2050 au maximum. Détoxifier de la planète. Ville en santé, c'est-à-dire zéro maladie chronique, zéro épidémie de solitude, pour 2030. Réformer la démocratie, en m'inspirant d'André Larocque et Raymond Bouchard, c'est constituer le Québec et décentraliser le Québec. Démocratisation de l'écolittératie. Actuellement, je suis en train de suivre un cours d'écolittératie. J'ai suivi mon premier cours hier. Super intéressant. Et je me demande comment démocratiser l'écolittératie. Peut-être qu'à Sherbrooke, à l'université même, là, il pourrait y avoir quelque chose dans ce sens-là. Puis aussi à la ville de Sherbrooke, ça peut passer par les 17 objectifs de développement durable. Ensuite, comme but, c'est le bonheur à cultiver et finalement, créer des liens ville-campagne entre des liens écologiques en m'inspirant de Vandana Shiva. Et puis, bien, je voudrais vous parler un peu du livre « Révéler votre nature ». Il faut que je le ramène à la bibliothèque aujourd'hui, là, c'est très intéressant, de Pascal Rossler. R-O-S-S-L-E-R, petit guide d'écologie intérieure et relationnelle pour un monde meilleur. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle parle de l'aspect psychologique autant que de l'aspect social ou politique. Cet ouvrage est une invitation à cheminer dans une vision globale de l'écologie, une écologie de vie, bonne pour soi, bonne pour les autres et pour le monde. Un parcours qui mène de l'être au faire, dans l'harmonie de nos interconnexions avec tout ce qui vit. Puis ce que j'aimais dans ce livre-là, c'est sa page 129 où elle dit que l'écologie c'est un indispensable vecteur de paix. Je trouve ça proche de ce que dit Fridtjof Capra, le maître penseur, le maître acteur du cours d'écolittératie, qui est en 12 chapitres dont je vais vous parler, parce que j'ai les 12 sommaires en français. Et puis, je voulais aussi vous dire que si Serge Mongeau, c'est un écrivain extraordinaire québécois, un médecin, et il est décédé il y a quelques mois. Et je pense qu'il a demandé l'aide médicale à mourir tout simplement parce qu'il se sentait trop manque d'énergie pour contribuer à créer un monde meilleur, nouveau. Fait que j'ai le livre de lui qui s'appelle « Docteur Serge Mongeau ». Le titre, c'est « Survivre aux soins médicaux ». Fait que c'est ça, vous pourriez lire ça, là. C'est intéressant. Et moi, je l'ai eu en prêt entre bibliothèques. Et à la page chantante, il y a des questions à poser aux chirurgiens avant une opération. Donc, on dit que pendant la maladie, nous perdons une bonne partie de nos moyens et nous sommes moins en mesure d'analyser, de critiquer et de juger ce qui nous arrive. Si nous n'avons pas développé nos réflexes de survie et acquis un certain nombre de connaissances, nous risquons davantage de nous laisser entraîner dans un processus qui pourrait s'avérer désastreux, dit Serge Mongeau. Et puis, nous avons notre historien québécois, Léandre Bergeron, qui lui aussi est décédé assez récemment. Dans son livre « Petit manuel d'histoire du Québec », dans son avant-propos, il dit que les histoires qu'elles nous ont racontées sur notre passé étaient conçues pour nous maintenir, nous, peuple québécois, en dehors de l'histoire. Et il dit aussi que ce petit manuel d'histoire du Québec s'insère dans cette dernière orientation. Nous, Québécois, subissons le colonialisme. Nous sommes un peuple prisonnier. Et ce petit manuel se veut une repossession, la repossession de notre histoire. Et voyons, l'inventaire de tout ce dont il parle dans le livre, là, à la page 405, il commence une chronique d'un ethnocide annoncé. Alors, M. Bergeron pointe dans la direction du livre « Forger notre avenir » que j'ai emprunté à la bibliothèque Eva Sénécal puis que je dois ramener. Fait que c'est le résultat de la Commission nationale des États généraux sur la souveraineté et c'est un bilan des États généraux sur la souveraineté. Puis on dit à la page 97 que nous pourrions renouveler le projet souverainiste en écrivant une constitution par le peuple et pour le peuple. C'est-à-dire qu'il y a une critique là-dedans de ce que le Parti québécois fait, c'est-à-dire qu'il pense à la souveraineté de l'État, alors qu'il faudrait penser aussi à la souveraineté du peuple. Donc, c'est un peu ça. En exemple, il y a une résolution adoptée par l'Assemblée le 6 avril 2013. Le chantier 1, c'est la souveraineté populaire et le pouvoir constituant. Donc, je vous amène un peu avec ça sur l'idée de constituer le Québec. Et c'est dans le cadre de réformer la démocratie que je vais plus en parler dans à peu près 2 mois. Et puis, Roméo Bouchard, qui est un des écrivains de cette tendance-là québécoise qui n'existe pas très fort, là, il dit qu'il faudra voir quelle sera la position du PQ en ce qui concerne la constituante, la constitution et la décentralisation territoriale, le rôle des partis politiques, le mode de scrutin, l'initiative populaire. Malheureusement, le projet de réforme du mode de scrutin pour lequel tous les partis se sont soi-disant engagés est un projet totalement bâtard qui cumule les inconvénients des deux, uninominal et proportionnel, sans préserver les avantages ni de l'un ni de l'autre. Le plus sage serait de revenir à l'Assemblée des réformes démocratiques que proposait René Lévesque. En référence, je vous parle de la trilogie que j'ai publiée avec André Larocque, notamment le mode de scrutin préférentiel régional qui serait appelé à fournir une base à des gouvernements régionaux, la décentralisation politique, l'initiative populaire, une constitution québécoise écrite par les Québécois et les Québécoises, bien sûr. Ce sont là quelques jalons pour alimenter la discussion sur la réforme démocratique dans la prochaine campagne électorale. Alors, c'est un peu une base de mon introduction. Et puis, je continue en vous disant que... J'en ai dit un mot la semaine passée, mais c'était pas assez clair, là, trop rapide. Il y a eu un appel le 28 juillet 2025 pour une stratégie mondiale de l'eau au service de l'humanité et de la communauté mondiale de la vie sur Terre par Ricardo Petrella. C'est ça. Puis j'ai pas trouvé à quel groupe il appartient, là. Mais c'est dans presenza.com, presenza.com. Il dit que l'objectif de son document, c'est-à-dire pour une stratégie mondiale de l'eau, c'est un ensemble de 5 initiatives qu'il aimerait voir réalisées. Le changement climatique désastreux et par conséquent la crise de l'eau concomitante à l'explosion du système international bouleversé par ses propres logiques de guerre, de domination et d'exclusion. Plus de 4 milliards de personnes privées de toute protection sanitaire, sans oublier Gaza, le Soudan, le Sud, le Congo et Trump témoignent de la gravité de la crise dans laquelle se trouve aujourd'hui la vie et l'humanité et la planète. La conviction qui sous-tend les propositions contenues dans la lettre mémorandum est que non seulement il est nécessaire, mais surtout possible d'arrêter la catastrophe climatique ainsi que les guerres et les inégalités, malgré le blocage des dominants. Cette conviction s'appuie sur trois évidences sur lesquelles il faut malheureusement insister une fois de plus. Premièrement, le lien étroit entre l'augmentation de la température moyenne de l'atmosphère de plus de 1,3 degré Celsius par rapport au début de l'ère industrielle et le bouleversement complet du climat. Deuxièmement, la principale cause, mais pas la seule, du réchauffement de la Terre est constituée par les émissions immenses de gaz à effet de serre supérieures à la capacité d'absorption de la Terre. Et troisièmement, le principal facteur de ces émissions, c'est les énergies fossiles. Fait que c'est aux citoyens et citoyennes de tous les pays et aux peuples de la majorité des États membres de l'ONU qui sont les victimes de la crise mondiale du système de se battre et de créer les conditions pour l'adoption de mesures qui mettent en mouvement le processus d'inversion des tendances actuelles. Fait que la troisième initiative qu'il propose, c'est puisque la consommation humaine d'eau est empoisonnée, la contamination chimique toxique n'épargne aucun plan d'eau, fait qu'il faut agir, tu sais. Fait que ça, c'est une lettre à Guterres, le secrétaire des Nations Unies, puis ça rejoint le livre dont je vous ai déjà parlé, « Planète Aqua ». Et puis, puisqu'il faut un peu se reposer et penser utopie, il y a Julien de 2030 Glorieuse qui a écrit un livre hein, que j'ai. Et puis, il donne une infolettre. Moi, dans sa dernière infolettre, il parlait d'une formation utopiste. Si vous voulez, suivez une formation avec moi, ça s'appelle la formation utopiste. Ça, c'est Julien de 2030 Glorieuse qui parle. Puis, il fait aussi un rendez-vous pour la fête des possibles. Les ateliers 2030 Glorieuses s'associent à la Fête des possibles pour rendre visibles toutes les initiatives citoyennes qui construisent une société plus durable, humaine et solidaire. Et puis, quitter un peu cette ambiance suprêmement intéressante, un petit retour à la réalité très plate, c'est comment les lobbies pro-Israël font pression sur McGill. C'est un article chez Pivot. Vous pouvez avoir ça si vous vous abonnez à l'infolettre de Pivot. Fait que j'ai pas le temps de tout vous lire ça, n'est-ce pas? Ça prendrait un mois d'émission si je vous lisais tout. Fait que finalement, à 91 ans, Jane Goodall partage sa vision du monde. Il y en a peut-être beaucoup qui ont vu ça. C'était à 24-60. Super intéressant, Jane Goodall, qui, je vous en ai parlé aussi, elle a son livre, le livre de l'espoir, où elle donne quatre raisons pour espérer. Je me souviens qu'il y avait la résilience de la nature et l'esprit humain là, qui est capable de faire quelque chose, puis l'énergie de la jeunesse. Fait que finalement, la cloche de la paix sonne... voyons, un peu de calme, là. La cloche de la paix sonne à l'ONU au milieu d'une cacophonie de conflits. Il n'y a jamais eu autant de conflits sur Terre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et la cloche de la paix a retenti ce vendredi 12 septembre au siège des Nations unies. Cette cloche a été offerte à l'ONU en 1954 par l'Association japonaise pour les Nations unies, une ONG qui représentait le pays alors que celui-ci n'était pas encore membre de l'organisation. Leur mantra, c'est « Vive la paix mondiale absolue ». Et dans un discours prononcé lors de la cérémonie de cette cloche, M. Guterres a mis en avant le paradoxe entre cette ode à la paix et le contexte international actuel. Puis il y a un appel à agir. Alors, je vous souhaite à aller lire dans ce bulletin des Nations Unies l'article « La cloche de la paix sonne à l'ONU ». Au milieu d'une cacophonie de conflits. Et puis, très rapidement, il y a des attaques, à propos des attaques de Trump, les climatologues états-uniens ripostent. Vous pouvez lire ça dans reporter.net. Les climatologues états-uniens ne se laissent plus faire par rapport à Trump. Et finalement, il y a deux Québécois qui travaillent à aider les victimes de psychoses générées par... tu sais, c'est quoi, là, l'informatique générale? L'IA. Fait que dans le devoir, vous pouvez lire ça. Des psychoses qui sont générées par l'IA, des Québécois aident. Alors, on va en pause et je reviens. De retour à nos futurs avec Claude Saint-Jean et j'ai le plaisir de recevoir Mme Kaoula Kadri, qui est extrêmement énergique pour ce qu'on arrive à la paix à Gaza. Je lui avais écrit un courriel que je retrouve, tu sais, je lui avais demandé c'était quoi les choses qu'on disait dans les manifestations, là. On n'est pas fatigué, il y a Gaza à libérer. C'est ça qu'elle m'a répondu. Israël, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi. Et Israël assassine les journalistes en Palestine. Ça, je ne savais pas ça. Fait que merci beaucoup, Mme Kaoula, pour ces informations.
On est arrivé à 217 journalistes tués jusqu'à aujourd'hui. C'est plus que la Première, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre en Corée, la guerre en Irak et les autres guerres combinées.
Mm-hmm. Avant que j'ai
c'est pesé, une onde très forte.
J'ai pesé ce votre bouton un petit peu en retard. Le nombre de journalistes, c'est combien?
217 journalistes tués par Israël depuis le 8 octobre 2023.
D'accord. Et savez-vous le nombre de médecins?
Non.
C'est pas grave. C'est correct. Et donc, je vous ai montré le livre « Palestine, un féminisme de libération
mm-hmm. ».
Et vous m'avez dit une réflexion dont on pourrait parler un peu plus tard, si vous voulez.
Oui,
et puis, j'ai le livre « Rachad Antonius, oui. La conquête de la Palestine ».
Qui est un très, très bon livre. On a déjà invité M. Antonius ici à l'Université de Sherbrooke, justement, pour présenter son livre et pour en parler. C'était très, très intéressant.
Mm-hmm. En sous-titre, c'est « De Balfour à Gaza, une guerre de 100 ans ». Ça, on ne sait pas ça. Hein,
exact. Hier, j'ai eu le plaisir d'être invitée à un débat et justement, ça m'a fait prendre conscience que on connaît pas, la majeure partie du monde ne connaît pas l'histoire, comment que ça a commencé. Et quelque part, c'est pour ça que les gens peut-être trouvent ça un petit peu compliqué. C'est parce que c'est comme s'ils se sont réveillés le 7 octobre 2023 avec un énorme truc et qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Alors, je vais juste prendre quelques minutes
un petit peu
pour expliquer. En fait, l'histoire, même s'ils veulent faire croire que le tout a commencé avec le 7 octobre 2023. Ça remonte avant 1948, mais on va prendre la date de 1948 parce que c'est là où ça a été quelque part concret. Ça a commencé vraiment. En fait, en 1947, il y a eu la promesse Balfour qui est un ministre britannique parce que la Palestine, comme le Québec, était colonisée par l'Empire britannique. Ils ont eu moins de chance parce que en décidant de quitter, ils ont décidé de donner ça aux sionistes pour la terre de sionisme par rapport à la montée d'antisémitisme en Europe. Ça a commencé avec en Europe, mais ça s'est confirmé. La persécution des Juifs en Europe s'est confirmée avec le nazisme qui a monté et l'idée d'avoir une patrie juive pour protéger a commencé à partir de là. Ce qui fait qu'ils ont commencé à aller en Palestine en vague d'immigration. Ça, c'est comment que ça a commencé. En fait, il y a eu des milices qui ont commencé à faire de l'épuration raciale, qu'ils ont fait exactement la même chose, sauf qu'en 1948, ce n'était pas vraiment enregistré live comme on est en train de voir ça.
OK. Y a une idéologie sioniste
tout à fait.
Au départ, un cadre mental, on peut dire. Là,
exactement.
Juif.
Tout à fait.
De l'extrême droite juif.
Oui. Ce qui est drôle, c'est que ces gens-là, comme Zeev Jabotinsky, par exemple, qui ont mis en avant ce mouvement politique. Il faut bien le dire, le sionisme est un mouvement politique, est une idéologie qui n'a absolument rien à voir avec la religion qui est le judaïsme. Mmh. Les sionistes, ils ont fait un super bon travail pour faire l'amalgame parce qu'ils voulaient se protéger des critiques et personne ne peut dire, parce qu'aujourd'hui, dès qu'on critique le sionisme, on est taxé par antisémite.
Ouais.
Alors que ça n'a absolument rien à voir. C'est comme si on critique le capitalisme et on nous dit « vous n'êtes pas croyant ». Ça n'a rien à voir.
D'accord. Là, je fais une autre tangente. Dans le livre dont on parle, La conquête de la Palestine, la préface a été écrite par Fabienne Presenti, qui est membre des Voix juives indépendantes du Canada.
Tout à fait.
Il y a des Juifs et des Juives qui ne sont pas d'accord avec la guerre de Gaza, avec l'invasion de la Palestine. N'est-ce pas? Ça, c'est assez rare, puis c'est important de
non,
les voir.
Non, c'est pas si rare que ça, mais le problème...
Nous,
oui, c'est vrai. Mais c'est ça, c'est, on revient toujours à qu'est-ce qu'on met en avant.
Oui.
C'est pas rare, il y a énormément. Moi, je connais des Juifs, par exemple, mon cher ami Bruce Katz, qui est à Montréal, et que lui, ça fait plus de 40 ans qu'il lutte contre le sionisme. Il a d'ailleurs un site qui s'appelle Palestiniens et Juifs Unis, pajou.org. Je vous invite à aller le voir. Il y a tous les jours des articles extraordinaires. Bruce a passé sa vie à lutter contre le sionisme parce que les Juifs qui sont un peu plus éveillés par rapport au problème comprennent que le sionisme est le plus grand danger pour les Juifs.
D'accord. Pajou, c'est P-A-J-O-U?
P-A-J-U.
OK, J-U. Point oui. D'accord, merci. Et est-ce que c'était lui qui était ici à une manifestation récente à Sherbrooke?
Non. Okay. Non, pas lui, mais il est venu ici à l'université.
Okay,
on l'a invité il y a un an. Il est venu faire une conférence ici.
Et Fabienne Présenti a fait une conférence...
samedi dernier, bon. Elle a fait une conférence suivie par une discussion. C'était extrêmement intéressant, c'était très, très bien. Même moi, qui est militante depuis des années, j'ai appris des nouvelles choses parce que c'est important d'entendre et de comprendre le point de vue des Juifs non-sionistes. Mm-hmm. Ils ne sont jamais mis en avant et ils sont beaucoup plus qu'on le pense. Ils sont des milliers.
D'accord, merci. Et peut-être, je vous ai peut-être un peu coupé avec ces petites questions. Est-ce que vous avez fait bifurquer de votre message?
Oui, mais c'est correct. C'est intéressant. Anyway, de toute façon, je voulais juste dire que les gens qui ont créé le sionisme, c'est des athées qui croient même pas en ça. C'était juste une couverture, c'est de la manipulation. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ça a commencé en 1948, il y a eu de l'épuration, il y a eu des massacres par des milices qui ont été mis là, des milices sionistes comme le Lehi, le Haganah, l'Ergom. Pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que ces milices-là, ils ont fusionné, ils ont créé l'armée israélienne d'aujourd'hui. C'est ça, les racines de l'armée la plus morale, entre guillemets, bien sûr, au monde. C'est des milices qui ont conduit de l'épuration raciale, des massacres, comme par exemple le massacre de Dir Yassin, juste pour donner un exemple, en 1949. Le 9 avril 1948, ou le massacre de Hebron, le 19 janvier 1948. Et à cette époque-là, il y a eu entre 750 000 et 1 million de Palestiniens qui ont été poussés à l'exil vers Gaza. Parce que ce que les gens ne disent pas, c'est que Gaza est un énorme camp de réfugiés. C'est l'épuration qui a eu lieu en 1948 qui a donné Gaza. Gaza est la taille de l'île de Montréal. 363 kilomètres, il y a 2,5 millions de personnes qui vivent là. Déjà, l'ONU, avant même tout ça, a déclaré Gaza comme la prison à ciel ouvert la plus grande au monde. Imaginez 2,5 personnes sur une toute petite superficie, mais pas uniquement. Ils sont contrôlés surtout. Personne ne rentre, personne ne sort. Israël contrôle l'eau, l'électricité, le gaz, l'air, la mer, tout. Tout. Ils décident de qu'est-ce qui rentre et ils décident de qu'est-ce qui ne rentre pas. Par exemple, le lait pour les enfants, la formule pour les nourrissons, c'est interdit. Ça ne peut pas entrer.
Malheureux.
C'est très, très malheureux, mais on ne connaît pas tout ça.
Ben, c'est ça, c'est criminel.
C'est très criminel, ouais, exactement. Ouais. C'est contre toutes les lois. Mais justement, il y a comme... C'est très, très spécial ce qui s'est passé depuis le 7 octobre 2023, parce que là, on se retrouve face à un dilemme. Nous, surtout nous, les privilégiés du G7 et les Juifs anti-sionistes, on a une responsabilité beaucoup plus grande. Parce que nous, on est privilégiés et c'est nos pays en notre nom qui sont en train de conduire, ou bien aider et être complice avec un génocide en cours, oui. Ce qui n'est absolument pas acceptable.
Oui, d'accord. Dans la revue québécoise, plus que québécoise, chambourquoise, le journal Entrée libre et le journal Regard, j'avais réussi à trouver une dame qui faisait de l'agriculture en Palestine.
Oui.
Puis elle a écrit deux articles.
Oui. En tout cas, ce que je veux dire, parce que le temps va très, très vite, ce que je veux vraiment parler de ce qui se passe en ce moment. Il y a une famine. Il y a des centaines de bébés qui sont en train de mourir de faim. C'est une cruauté sans nom. C'est en 2025, il y a des gens qui sont en train de mourir et des bébés qui meurent de faim. Ça, c'est juste inimaginable. L'autre chose, c'est qu'ils sont en train de vider Gaza. Déjà, ce n'est pas grand, comme j'ai dit, 363, mais là, maintenant, ils ont donné les ordres d'évacuer 82% de la superficie de ça. Ce qui veut dire que les 2,5 millions, ils sont obligés de se retrouver dans une superficie qui est de 64 kilomètres carré. 2,5. Déjà, il n'y a plus de place. Les gens, ils sont poussés parce qu'Israël a trouvé une nouvelle façon. Il faut leur donner ça. Ils sont inventifs dans la cruauté.
Ouais, c'est vrai.
C'est extraordinaire. Quand on dit qu'on a atteint un sommet de cruauté, il n'y aura pas pire. Ils nous surprennent avec quelque chose de encore 10 fois pire. Maintenant, ce qu'ils font, ils utilisent leurs vieilles machines qui remplissent avec des tonnes d'explosifs. Ils les poussent jusqu'à un carré, 4 blocs. Ils la mettent au milieu avec genre 10-15 tonnes d'explosifs et ils explosent ça. Ce qui fait qu'on a les 4 pâtés de maison, les 4 blocs qui disparaissent. Il n'y a plus rien qui tient debout.
Est-ce que les couloirs souterrains même sont détruits?
Oui, ils sont détruits. Ouais. Il ne reste plus rien. Et la quantité, Gaza a reçu plus que 7 bombes nucléaires en termes d'explosifs.
Ouais.
Il n'y a plus rien.
Ça, c'est décourageant. Et ça, on ne le sait pas beaucoup, n'est-ce pas?
Non.
Les journaux n'en parlent pas?
Non, les journaux n'en parlent pas. C'est ça. Il y a comme une omerta. C'est toute une complicité. C'est toute une complicité. Les mainstream médias, tout est contrôlé de la même façon.
Oui.
Ils décident de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas.
Les artistes pour la paix font cette critique. Ça fait 43 ans qu'ils existent et peut-être qu'ils vont arrêter, il n'y a plus de membres, presque plus de membres. Bon, c'est ça. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter auquel je ne pense pas?
Ce que je veux rajouter, c'est que les gens ne se rendent absolument pas comment les luttes sont liés. Justement, en parlant un féminisme de libération, je trouve que, autant que femme et autant que féministe, je trouve qu'on n'est pas assez, nous les féministes, on ne se tient pas assez debout pour les femmes de Gaza. Ce qui se passe, il y a des milliers de femmes arrêtées arbitrairement, sans aucune, pas uniquement des femmes, il y a des enfants. Parce qu'en Israël, l'âge d'arrestation est de 14 ans et moins. On a des milliers d'enfants qui sont arrêtés, ce qu'ils appellent l'arrêt administratif, arbitrairement, sans aucune accusation, ils peuvent passer des années. Des femmes qui sont arrêtées, il y a énormément de violences sexuelles contre les femmes. Des viols, des agressions, personne n'en parle. Personne n'en parle.
Incluant le féminisme.
Exactement, incluant les féministes, ça, quelque part, ça me dépasse un petit peu. La protection des enfants. Comment on peut arrêter un enfant de 12 ans pendant des années, le mettre en solitaire, lui mettre des choses sur la vue, lui obstruer la vue? Honnêtement, comme je reviens encore, on est confronté à un dilemme et beaucoup d'incompréhension parce que, pour moi, le concept des droits de l'homme est tombé. Le concept des droits des femmes est tombé. Le concept des droits des enfants est tombé. Il n'y a plus rien. Le droit à l'eau, le droit à la santé, les choses qu'on pensait qui étaient acquises et fondamentales et qu'on ne remettra plus jamais en question aujourd'hui, tout est remis en question, mais pas uniquement. Israël est en train de prouver qu'on est aussi barbare que le temps médiéval.
D'accord. Oui, je lisais qu'un enfant de 7 ans qui tire une roche sur un tank est arrêté. Qu'est-ce que ça fait, ça, une horloge sur un tank?
Ça fait honnêtement, rien. Ça prend beaucoup moins que ça pour se faire arrêter. Ça, okay. Déjà, il a fait quelque chose. D'accord. Mais parfois, c'est juste, il traverse un checkpoint parce qu'il y a des checkpoints sur la totalité, par exemple, de la Cisjordanie, qui est censée être un territoire libre sous l'autorité palestinienne. Mais ce n'est pas vrai. Mm-hmm. C'est Israël qui... Pour aller à l'école, il faut qu'il traverse 4, 5, 6 checkpoints. Et à chaque checkpoint, ça dépend de l'humeur des soldats. Mm-hmm. Ils peuvent juste l'arrêter parce que ça ne les tente pas, mm-hmm. parce qu'ils veulent s'amuser. Mm-hmm. Ils vont lui mettre les menottes, ils vont lui restreindre la vue et il va passer des heures sur le bord de la route jusqu'à ce qu'il décide de l'aller. Un enfant de 5, 6, 7, 8 ans.
D'accord. Le sionisme est puissant. Concernant le féminisme, il y a un livre qui s'appelle « Palestine, un féminisme de libération » de Nada Elia. Où vous pourrez creuser peut-être avec vous, avec vous, Kaoula Kadri. Je vous remercie d'être ici. Vous êtes à l'émission À nous le futur.
Merci beaucoup.
Et on continue. Bienvenue.
J'ai juste un petit dernier message. Je veux envoyer un message de force et de soutien à Ahmed Mostat, qui est un étudiant de l'Université de Sherbrooke, qui est en train de subir une campagne de salissage gratuite à 100%. Beaucoup, beaucoup de force. On pense énormément à toi et tu n'es pas seul, Ahmed. Et vraiment, je suis extrêmement fière d'être cherbourquoise pour l'Université de Sherbrooke. Merci l'Université de Sherbrooke. Bravo l'Université de Sherbrooke parce que l'Université de Sherbrooke s'est tenue à face à ça et elle a pris Ahmed Mostat qui est un élève brillant parce qu'ils ont réussi dans leur campagne de l'expulser de McGill et de l'Université de Montréal malgré des enquêtes de la GRC, de la CSI qui l'ont blanchi à 100%. Aussi une enquête de l'Université de Sherbrooke qui l'a blanchi des accusations antisémites. Alors, bravo l'Université de Sherbrooke. Je suis extrêmement fière de l'Université de Sherbrooke. Il est étudiant en médecine ici, mais ça n'arrête pas. Il continue à le salir. On se tient pour Ahmed.
Ben merci. Et il continue... C'est des sionistes d'Israël qui ont pris l'avion pour venir à Sherbrooke?
Non, c'est ça le problème, c'est que les sionistes, ils sont partout. On en a énormément de sionistes ici au Canada. Le lobbying est exactement le même et il faut qu'on fasse très, très attention parce qu'on voit ce qui se passe aux États-Unis avec le AIPA qui est le lobby pro-israélien, le lobby sioniste qui paye tous les politiciens aux États-Unis. Personne ne peut parler parce que si on est contre, si on ose critiquer Israël, ils vont mettre tout l'argent pour les élections d'après. La personne n'arrive jamais, ce qui fait que tout le monde a peur. C'est beaucoup d'intimidation, c'est beaucoup d'argent. Mais et nous, on ne veut absolument pas ça ici. Le Canada n'est pas les États-Unis et il faut qu'on continue. Et c'est extrêmement important de se mobiliser, de se tenir debout pour ne pas perdre nos acquis. On n'est pas les États-Unis, on ne peut pas laisser le sionisme nous contrôler.
Oui, vous avez raison. Est-ce que la ville de Sherbrooke a fait des pas pro-Gaza?
Oui. Autre chose de laquelle je suis très, très, très fière d'être cherbrookoise, c'est que la ville de Sherbrooke était une des premières villes du Québec à demander un cessez-le-feu. Déjà, je pense au mois de novembre, décembre 2023, on avait fait la demande au conseil de la ville et la ville a réagi par rapport à ça. Aussi, un grand merci pour notre service de police qui a toujours été là pour nous protéger, qui a toujours collaboré par rapport à toutes nos actions. On a une relation très, très respectueuse. Et encore une fois, je suis très, très fière d'être cherbrookoise parce que ça ne se passe pas de la même façon dans toutes les villes du Canada ou du Québec. Il y a énormément de résistance. Parfois, ça va beaucoup plus, mais on est extrêmement fiers de notre police parce qu'ils nous protègent aussi, parce qu'on reçoit énormément de menaces, on reçoit beaucoup d'intimidations. Un individu a essayé de nous foncer dessus avec sa voiture pendant un truc. On reçoit énormément de menaces et c'est rassurant d'avoir la ville et la police aussi présents.
OK. La voiture qui a tenté de foncer sur vous pendant un truc, le truc, c'est une manifestation?
Oui.
Oh non!
C'était une action, oui.
J'étais peut-être là.
Exactement, vous étiez là, vous avez vu ça.
Bon, mais c'est, en tout cas, mais ouais, merci avec vous aux
merci
policiers.
Merci pour l'invitation, merci beaucoup.
OK. Fait que, donc, c'est ça, on peut terminer avec ça, votre...
Oui. Oui, encore une fois, une pensée pour Ahmed, parce que c'est un jeune homme brillant d'une vingtaine d'années. Il ne mérite pas ce qui lui arrive juste parce qu'il a défendu une cause qu'on estime juste et qu'il a parlé d'un génocide, chose que tout le monde doit faire.
Mm-hmm. Madame...
Kaola?
Oui, vous. Et aussi, Baranti, la préfacière de ce livre-là.
Fabienne Présentier.
On a parlé de ça.
Oui.
Mais est-ce qu'il y a un article qui fait un bilan de ce qu'elle a dit?
Malheureusement, il y a un article qui est sorti hier, je pense, du Journal de Montréal, qui est honnêtement un ramassis de mensonges.
Ah bon?
Okay. Vraiment un ramassis de mensonges. J'ai vu la documentation, j'ai vu les papiers officiaux, où il disait que c'est un élève brillant. Okay, le collège de Dawson disait que c'était un élève brillant et que c'est dommage qu'un élève brillant soit la victime d'une campagne de salissage.
D'accord.
Et il y a eu 3 investigations séparées de 3 institutions quand même, la GRC, l'université et l'intelligence canadienne qui ont dit qu'il est innocent. On peut-tu arrêter?
Okay.
Ouais. On peut-tu arrêter? Mmh. C'est un gamin. Il a 20 ans. Mm-hmm. On a besoin de médecins.
Mm-hmm. D'accord. Bon, bien, là-dessus, est-ce que juste... avez-vous une lecture à nous suggérer pour mieux comprendre? Est-ce que c'est celui-là ou un autre?
Oui, La conquête de la Palestine, ça, c'est un excellent livre. Il vulgarise l'histoire. Il parle depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui. Je trouve qu'il soulève des critiques extrêmement intéressantes. Et c'est vraiment un très, très bon livre pour comprendre, surtout pour débuter. Je pourrais peut-être suggérer aussi, encore une fois, le site de Pajou. C'est francophone. Mais sinon, s'il y a une lecture anglophone, comme moi, je suggérerais, c'est Genocide Bad, qui est écrit par Ken Sim, qui est une militante juive et qui défait tous les arguments qu'on entend aujourd'hui pour justifier le génocide.
Genocide Bad, B.A.?
Oui, okay. Genocide Bad, B.A.D.
OK, parce que j'ai vu en français le mot B.A., bah, je ne sais pas si je ne comprenais pas c'était quoi, en tout cas. Bon, et puis moi, juste un petit commentaire à propos du sionisme qui est mélangé avec l'antisémitisme. Là.
Mm-hmm.
Je vous ai parlé de Buckminster Fuller. Lui, en 1980, il disait que, d'ailleurs, il a fait des recherches pendant des décennies, puis il a travaillé à Sherbrooke en 1914, quand il avait 19 ans, comme punition, parce qu'il avait tout dépensé sa bourse pour inviter des comédiens, tu sais, au restaurant. Bon, en tout cas.
D'accord.
Fait que lui, sa recherche, c'était... Il voulait la réussite de l'humanité, c'est que tout le monde vive bien.
Mm-hmm.
Puis il a fait des recherches pour plus avec moins. Tu sais. Puis là, il dit, nous avons tellement fait de progrès dans l'art de faire plus avec moins que j'affirme qu'aujourd'hui, on a assez de ressources pour que tout le monde vive bien puis qu'on n'a pas de guerre pour y arriver, pas besoin de guerre pour y arriver, puis on peut respecter l'écologie. Et comme vous voyez, ça n'a pas été réalisé. On ne l'a pas écouté. Il y avait un plan de 10 ans. Mais aussi, je constate qu'il y a eu comme un travestissement de faire plus avec moins. C'est-à-dire que lui voulait dire faire plus avec moins de ressources, de matériaux et d'énergie. Alors, les multinationales se sont mis à faire plus avec moins d'employés.
C'est exactement ça. Il y a assez pour tout le monde. C'est juste un jeu de contrôle et de pouvoir et d'argent. On ne va pas entrer dans les détails, mais il y a toujours le 1% qui veut continuer à être le 1%, le 99%. Juste à une petite information, par exemple, pour faire réaliser le rapport avec l'environnement. En juste les premiers mois, les 4 premiers mois du génocide, ça veut dire de octobre jusqu'à janvier, Israël a émis l'équivalent de 26 pays réunis en CO2.
Oh non.
Okay. En 4 mois.
Ouais, d'accord.
Vous voyez, les gens ne réalisent pas. Par exemple, en Cisjordanie, dans le dernier mois, il y a eu plus de 10 000
oliviers centenaires qui ont été brûlés.
D'accord, oui. Pas d'accord. Justement, vous en profitez pour faire une critique un peu des écologistes,
oui,
qui ne sont pas assez pacifistes, peut-être?
Pacifistes ou pas, moi, je suis pour les actions pacifistes à 100%. D'ailleurs, la même chose pour mon regroupement Solidarité Sherbrooke-Palestine. Nous, on est... notre ligne est très pacifiste et la lutte sociale civile.
D'accord.
Je ne vois pas d'autre façon de lutter. C'est pacifique. Moi, ce que je leur reproche, c'est de ne pas se tenir assez avec la Palestine. C'est le corps. Quand en 4 mois, c'est l'équivalent de 26 pays réunis en CO2,
ouais,
excusez-moi, c'est pas ça qui va régler le réchauffement climatique.
Ouais,
au
d'accord.
contraire. Alors, qu'est-ce qu'ils font les environnementalistes? Pourquoi personne ne parle de ça?
D'accord. Bien, vous avez raison. J'espère qu'on va vous écouter davantage.
Je l'espère. C'est pour l'humanité. C'est pas pour moi. Moi, ce qui m'inquiète, d'ailleurs... On est tous là-dedans. D'abord, c'est question de santé mentale parce qu'avec l'horaire, ils ne se rendent pas compte qu'Israël est en train de créer un trauma général intergénérationnel. Il n'y a personne qui est sain d'esprit qui va voir les photos qui sortent de Gaza. Il ne va pas être traumatisé. On est tous traumatisés. On a tous besoin de thérapie et de suivi avec ce qu'on fait. Ce qui fait que ce qu'on fait, c'est question de sainteté mentale pour oui. agir, pour faire quelque chose. La deuxième chose, c'est je suis une maman. Quel type de monde on est en train de laisser à nos enfants, à nos petits-enfants? Les dettes, les problèmes environnementaux, les guerres, c'est quoi? La haine, on revient des décennies, des centaines d'années en arrière. Il faut que on se réveille pour nos enfants. C'est très, très, quelque part, égoïste, notre lutte.
Oui.
Parce qu'on lutte pour nous d'abord.
D'accord. Alors, Madame Kaoula Kadri, je vous remercie beaucoup d'avoir
Merci.
Été ici. Ça nous éclaire. Et puis, j'espère que, comme je disais, que vous allez être écoutée davantage.
Merci
et
beaucoup.
De manifester plus, hein, les manifs bientôt.
Oui, il y a une manif le samedi à 1h, la place de la Cité. Elle est organisée par Solidarité sans frontières. Estrie, on est invité. Mais il va y avoir une marche pour les 2 ans du génocide le 7 octobre. À 17h30.
OK.
Alors, joignez-vous à nous. C'est l'occasion de montrer que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe. Ça fait déjà 2 ans de trop que ça se passe.
OK. Bien, je vous remercie beaucoup. Alors,
Merci.
Bonne journée. Alors, bonjour. Vous êtes à nous le futur. Et c'est le temps vraiment de dire qu'à nous le beau futur, si possible. On le souhaite beaucoup. Et bon, pour terminer l'émission, j'aimerais vous dire des choses. Écoutez bien. Puis, je n'aurai pas le temps de tout lire, là. Attendez un petit peu, là. Ah oui, le groupe M361, OK? M comme maman, 361. Ils ont un article qui s'appelle « Le journalisme de solution, c'est un levier pour des stratégies de contenu engageant. » Alors, c'est ça, tu sais, ça existe, le journalisme de solution. C'est Marianne Boire qui a écrit cet article-là. J'espère que vous allez le lire. Aussi, le Stockholm Resilience Institute, fait que leur site Internet, c'est stockholmresilience.org. Ils ont un article à propos du traité de plastique. Comme vous le savez, on n'a pas réussi à avoir un bon traité de plastique et eux autres se disent, bien, ça en prend un. Il faut que se préparer pour une nouvelle réunion pour qu'il y ait un traité de plastique qui envahit vraiment nos océans. Et nos poissons, fait qu'on en mange, tu sais, fait qu'il faut faire attention là, avec le plastique. Dans un autre article du stockholmresilience.org, ils disent que 60% de la superficie des terres dans le monde se trouve dans un état précaire. Donc, c'est un peu plus de la moitié des terres. Fait que, donc, il faut vraiment réfléchir à ça, s'il vous plaît. Fait qu'allez lire ça. À peu près deux jours... Il va y avoir un balado où vous pouvez réentendre pour faire votre recherche. Stockholm Institute, 60% de la superficie des terres dans le monde se trouve dans un état précaire. Et également, le Stockholm Resilience Center nous parle de « News about visions of the future ». Donc, là-dedans, il y a des visions d'un beau futur. C'est en harmonie avec ce que veut cette émission, parce que j'ai déjà demandé, hein, si vous, ça vous tente de donner votre vision d'un beau futur. Vous êtes les bienvenus à le faire. Puis si vous le faites, bien, vous apportez votre feuille d'à peu près 500 mots au maximum à la radio, et moi, je lirai ça dans mon émission. Également, le Stockholm Resilience Center nous dit qu'il y a un nouvel outil mondial pour suivre la prospérité des personnes et de la planète. Bon, ça, c'est de la traduction en anglais. C'est « How to track how people peuvent thrive together », c'est bien agir ensemble. Eux autres, ils essaient d'être positifs, de voir un indice de relation avec la nature. C'est ça qui va peut-être réussir à nous engager à agir un peu plus facilement. Là. L'équipe appelle à la création d'un indice de relation de la nature. Et puis, un dernier article de Stockholm Resilience Institute, c'est « La dynamique de la polycrise, les leçons des 50 dernières années qui ont fait un gros choc, tu sais, qu'on vit tout le monde. » Fait que ce qu'on comprend surtout, c'est que, comme disait Mme Kaoura tout à l'heure, il n'y a rien qui est isolé, qui n'est pas connecté. Tout est connecté, comme disait aussi Fridtjof Capra dans son cours Écolittératie. Et planetsearch.org dit un article qui dit « Welcome to the Research Center for Resilient Meals » pour des repas résilients. Donc, pour vraiment baisser les GES, un des points de départ, c'est pour être d'arranger le système alimentaire et faire des repas résilients, ça pourrait être intéressant. Donc, le Research Center for Resilient Meals a des articles à ce propos-là. Fait que je crois que je vais arrêter déjà. Là, pour le, j'ai à peu près fini de ce que j'ai à dire. Je suis allé un peu trop vite parfois, mais néanmoins, tout est dit. Et vous pouvez, dès que vous pouvez réécouter l'émission, faire vos recherches sur vos portables. Parce que je sais que je m'intéresse presque à la génération alpha. Pas, ils ne sont pas encore rendus dans 3 ans, mais vous, le X, Y, Z, là, vous n'avez pas besoin. Un titre seulement vous oriente et vous pouvez vous informer et agir. Puis aussi, on peut agir avec les 17 buts de... comment ça s'appelle, pour avoir le développement durable? Les buts pour avoir un développement durable, finalement, il y en a 17. Puis il faut se méfier du 8e, parce qu'il paraît que le 8e parle de croissance économique. Ce sont, tu sais, des gens, finalement, de la droite, là, qui ont un peu contrôlé les Nations Unies. Fait qu'ils ont fait croire qu'il faut... Ils essaient de nous faire croire que nous avons besoin de plus de croissance économique. Non, il faut penser à la croissance qualitative. La croissance des bonnes affaires comme les énergies renouvelables, la croissance des arbres. Aujourd'hui, je vois des feuilles rouges, c'est très joli, qui tombent sur la rue. Alors, je vais terminer avec ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute de À nous le futur et de rêver au beau futur jour et nuit, puis d'agir pour un beau futur jour et nuit. Non, pas la nuit. Le jour. C'est Claude Saint-Jean, ici. Et bonne journée. Salut.